Je ferai une lecture dans Luc, l'évangile de Luc, au chapitre 2, et des versets 25 à 35. 25 à 35, Luc 2. Et voici qu'il y avait à Jérusalem un homme du nom de Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qui était en usage d'après la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit « Maintenant, Maître, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire de ton peuple Israël. » Son père et sa mère étaient dans l'admiration de ce qu'on disait de lui. Et Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, « Voici, cet enfant est là pour la chute et le relèvement de beaucoup en Israël, et comme un signe qui provoquera la contradiction. » Et toi-même, une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient révélées. On arrête là la lecture ce matin. Siméon, un homme juste et pieux, a été utilisé par Dieu pour prophétiser sur cet enfant, Jésus, le Messie, et Messie ça veut dire ouin, ou Christ en grec, hein, c'est loin de Dieu. Ouin pour une mission, c'est la mission de sauver l'humanité du péché dans lequel il se trouve et dans l'enchaînement de Satan qui a des droits sur lui, mais qui n'en a plus lorsque on est en Jésus. Toute cette page de l'Évangile est magnifique, comme bien d'autres, et particulièrement la déclaration de Siméon, qui vraiment est bouleversante. Je remarquais aujourd'hui sur la déclaration au verset 34, hein, bien que tout ce texte pourrait avoir un développement très important. Au verset 34, il prophétise et il dit « Il sera comme un signe qui provoquera la contradiction ». Dans Isaïe 9, chapitre 9, verset 5, ce fameux passage extraordinaire où Isaïe, sous l'inspiration de l'Esprit, dit qu'il y aura une femme qui aura un enfant. Hein, tout à l'heure, Charles en parlait de la mère. Donc, il y aura une mère, hein, qui portera un enfant. Et le nom de cet enfant qu'Isaïe a reçu de la part du Seigneur, il a dit son enfant, cet enfant sera appelé admirable, sera appelé conseiller, merveilleux, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Je vais relire ces attributs qui sont très forts, hein, et qui sont les attributs qui sont donnés au Messie. Admirable, conseiller merveilleux, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Voilà à quoi fait référence ce passage aussi de Siméon qui connaît très bien l'Écriture. Alors, ces déclarations prophétiques d'Ésaïe pourraient sembler totalement contradictoires avec cette prophétie de Siméon où Siméon dit qu'il sera une contradiction. Jésus sera un signe de contradiction. Et cette contradiction, eh bien, il le rencontrera toutes les années où il prêchera le royaume de Dieu. Autant de haine, il a suscité autant de haine que d'amour. Voyez-vous, c'est en fait ce clivage qui se fait au travers de l'annonce du royaume de Dieu par Jésus. souvent, l'amour que Jésus reçoit des gens, c'est l'amour des humbles, l'amour des pauvres, l'amour des petits, l'amour des pécheurs capables de se repentir, comme la femme adultère, ou de se convertir, comme Zachée. Mais souvent aussi, il rencontre la haine. Et la haine particulièrement des gardiens de la loi juive, des scribes, des pharisiens, des sadducéens, gardiens du temple, qui ne pouvaient reconnaître en lui le Fils qui est annoncé par Ésaïe. Sans doute par jalousie spirituelle, parce que c'est eux qui, bien sûr, recevaient tous les honneurs du peuple, ou par orgueil. Nous avons beaucoup à apprendre de ce combat de la vie de Jésus, et du glaive, de l'épée qui traversera l'âme de Marie. Quand nous marchons dans les pas de notre Sauveur et Seigneur, nous sommes amenés, nous aussi, à être des signes de contradiction. Mais attention de ne pas être ces signes par notre légalisme. J'entends par là le côté pointillisme doctrinal de notre rapidité à juger les autres, chrétiens ou pas chrétiens, qui ne font pas comme nous. Mais plutôt, soyons reconnus du côté de la vérité des êtres, de la vérité des blessures que les êtres peuvent avoir dans leur questionnement spirituel vers lesquels nous allons pour les comprendre, dans leur pauvreté de toutes sortes, dans leur non-conformité avec les exigences radicales de l'Église, qui souvent sont trop radicales et pour lesquelles nous les jugeons, dans leurs failles et leurs lueurs d'espérance. J'expérimente personnellement depuis longtemps qu'essayer de vivre et de parler de la radicalité de l'Évangile attire sur soi bien des incompréhensions, voire du rejet de beaucoup, et de l'amitié sincère de quelques-uns. Je l'ai expérimenté dès ma conversion, qui remonte à 67. Hein. J'étais rejeté totalement de ma famille, qui pourtant était catholique, très, très pratiquante. Donc, contradiction, rejet, qu'on peut expérimenter comme Jésus l'a expérimenté, quand on est quelqu'un qui veut suivre Jésus. N'ayons pas peur de ces contradictions. Nous marchons ainsi dans les traces de notre maître, ce qui ne peut faire de nous que des signes de contradiction, et non pas des personnes compromises par les pensées du monde. Attention, contradiction, ce n'est pas compromis. Ni des censeurs qui sont arc-boutés sur des doctrines rigides et culpabilisantes. D'ailleurs, même l'aventure de la foi semble placé sous ce signe de la contradiction annoncée par Siméon. Si on prend la lettre aux Hébreux, elle souligne à sa manière, en rythmant, en refrain, que vous connaissez, le chapitre 11, c'est par la foi. C'est par la foi qu'ils firent ceci. C'est par la foi, c'est par la foi. Le rappel des événements d'un passé lointain, Abraham par exemple, parti vers un pays qu'il devait recevoir en héritage. Il partit sans savoir où il allait. Et plus tard, quand il fut soumis à l'épreuve d'Isaac, Abraham offrit Isaac en sacrifice. Il a été éprouvé. L'aventure de la foi consiste à traverser des épreuves qui peuvent parfois provoquer des blessures, mais aussi permettre de grandir, de devenir adulte dans la foi. C'est bien le sens profond de épreuve qui indique la nécessité de faire des preuves. Comme on le dit à propos d'un examen, parce qu'actuellement il y aura des examens, eh bien on fait ses preuves de connaissance ou de non-connaissance de sujet. Et nous devons connaître notre sujet de la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ et de sa fidélité. D'une certaine manière, la foi est une épreuve, car elle nous inscrit en contradiction avec le monde qui nous entoure. Un des plus anciens écrits chrétiens, la lettre adressée à un certain Diogène, l'exprime à sa façon. Je vous le lis, c'est un peu un français ancien, mais ça exprime à sa manière déjà quelque chose qui a été exprimé il y a plus de 2000 ans. Les chrétiens ne se différencient des autres hommes ni par un pays, ni par une langue, ni par des vêtements. Ils n'habitent pas des cités qui leur sont propres, n'usent pas d'un dialecte étrange, ne s'adonnent pas à un mode de vie bizarre, tout en habitant des cités grecques ou barbares, selon le sort de chacun. Tout en se conformant aux coutumes locales pour le vêtement, la nourriture et le reste de la vie, ils manifestent la constitution admirable et de la vie de tous, paradoxale, dans leur république. Pour le dire simplement, c'est que l'âme est dans le corps. Les chrétiens sont dans le monde. L'âme est répandue au travers de tous les membres du corps et les chrétiens à travers toutes les cités du monde. L'âme réside dans le corps, mais elle n'est pas dans du corps. Les chrétiens résident dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Ou pour le dire encore d'une autre manière, comme ça tout le monde s'y retrouve, les chrétiens sont un signe de contradiction. Ça a été la prophétie de Siméon, à la suite et à la manière de Jésus. Mais si c'est parfois inconfortable, eh bien c'est la mission qui nous incombe. C'est la mission que Jésus nous a donnée, c'est d'être ses témoins. Le défi qui leur est lancé, c'est de former la famille de Dieu, à la manière même de la famille de Jésus. Rappelez-vous, Marie, Joseph, les frères de Jésus, etc., il y avait des incompréhensions avec Jésus. Et à un moment donné, Jésus a dû se séparer d'eux parce qu'il ne les comprenait pas. Il y avait une contradiction à l'intérieur même de sa propre famille. Pour évoquer la notion de cette épée qui transpercera l'âme de Marie, Siméon fait d'abord à Marie et à Joseph une première révélation concernant Jésus. Il leur dira, il sera la lumière pour éclairer les nations, la gloire d'Israël, son peuple. En se référant à ces fameuses prophéties d'Isaïe 42 et 49. Alors son père et sa mère s'émerveillent de leur enfant. Puis Siméon clarifie la révélation qu'il vient de donner. La lumière pour les nations passe d'abord par Israël. Et elle sera acceptée, cette lumière, ou refusée. Là déjà, nous avons une contradiction. Au sein de son propre peuple, certains l'accepteront et donneront lieu à la première église des apôtres juives et d'autres la refuseront. Et d'ailleurs, Dieu va frapper Israël en amenant les Romains en l'an 70 et tout Israël sera détruit, Jérusalem sera détruit et ce sera la diaspora pendant 2000 ans. Alors quel est le sens de cette épée? Une épée, un glaive te transpercera. Alors l'épée, vous voyez, là on est en face d'un symbole, l'épée. L'épée d'abord dans la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Les arguments sont très nombreux quand on regarde la tradition hébraïque, en plus de la Bible elle-même, pour montrer que cette épée, c'est la parole de Dieu. Dans l'Ancien Testament, le serviteur souffrant dit « Il a fait de ma bouche une épée tranchante. » Ésaïe 49, 2. Plus tard, dans la communauté hébraïque, qui est menacée de destruction par la culture grecque, qui à l'époque, c'était la culture de l'époque universelle, eh bien, elle résiste en demeurant fidèle à la parole de Dieu, qui est sa véritable arme, sa véritable épée. On le constate dans des écrits de Judas Maccabée, par exemple, qui a la vision de Jérémie, le prophète, l'homme de la parole qui donne une épée d'or en disant « Prends ce glaive, il est un don de Dieu, avec lui tu briseras tes ennemis. » Dans le Targum, alors le Targum c'est la Bible en araméen, la Bible qui a été traduite dans la langue parlée de Jésus en araméen, le texte du cantique dit que « Chacun porte son épée à son côté ». Et le Targum paraphrase, donc explique, que les prêtres et les lévites de toutes les tribus d'Israël ont au poing les préceptes de la loi qui sont comme une épée. et il porte le signe de la circoncision. Si on prend les Midrash, alors les Midrash, c'est l'exégèse, c'est l'explication de la Torah. La Torah qui est le Pentateuque, la parole de Dieu pour les Hébreux. Elle explique que les consonances du mot épée sont les mêmes que celles de Horeb. Or, Horeb, à Horeb, au mont Sinaï, eh bien, le peuple a reçu la loi. Donc, vous voyez, il y a une correspondance entre la loi et l'épée. Le Midrash explique aussi que cette épée a deux tranchants, de multiples façons. Eh bien, c'est l'exemple de la Torah qui est écrite et qui est orale. Dans Luc, au seuil de la passion de Jésus, donc quand il vient vers la croix, Jésus invite à vendre son manteau et à prendre chacun un glaive, une épée. Mais Jésus n'entend pas l'épée au sens matériel. La preuve, c'est que quand Pierre coupe l'oreille, il la remet. Mais il invite à prendre l'épée de la parole de Dieu pour avoir le discernement spirituel et ne pas tomber en tentation, sachant que Jésus, il connaissait parfaitement l'écriture, la Bible de l'époque, c'était l'Ancien Testament, et il n'est jamais tombé en tentation. Dans l'Épître aux Hébreux, l'auteur compare la parole de Dieu à celle de Moïse lors de sa sortie d'Égypte, dans Hébreux 4, verset 12, et dit « Vivante, en effet, la parole de Dieu, elle est efficace et plus incisive qu'aucun glaive à deux tranchants. Elle pénètre jusqu'au point de diviser l'âme de l'esprit, les articulations des moelles, et elle peut juger les sentiments et les pensées du cœur. » Si on prend Paul, qui a écrit toutes les épîtres, il cite parmi les armes du combat spirituel le glaive, l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, Éphésiens 6. Dans Apocalypse, le Christ vainqueur apparaît comme un cavalier avec une épée, sa parole qui est dans sa bouche et qui est une parole, qui est une épée tranchante. Donc dans toute la tradition hébraïque, et dans le texte de l'Évangile, eh bien, la signification pour Marie, c'est que la parole de Dieu va la traverser, voyez-vous, et va la traverser dans toute sa vie. Une parole qui produit la louange, une exaltation. Marie exalte le Seigneur, elle exulte devant lui. Elle va traduire dans son intelligence pour comprendre son Fils, non seulement sur un plan humain, mais sur un plan spirituel. Elle traduit la sérénité de sa foi, mais aussi la douleur. La douleur, le glaive signifie la parole de Dieu, le dessein de Dieu, le plan de Dieu, qui englobe toute la mission de Marie, y compris sa douleur. De même qu'Isaïe contient aussi les prophéties du serviteur souffrant. Il annonce un serviteur souffrant et un serviteur vainqueur. Mais nous n'avons jusqu'à présent connu que le serviteur souffrant. Le serviteur vainqueur, bien sûr, nous le connaissons en esprit, mais nous le connaîtrons quand il viendra des cieux et tout œil le verra. Et là, ce sera le serviteur vainqueur. La tradition chrétienne reprend ce symbolisme. Très souvent, surtout dans l'Église catholique, elle a surtout accentué le fait que l'épée est la douleur de Marie lors de la Passion. Or, cette interprétation dérive de l'interprétation précédente, car la parole est en but à la contradiction. Et la croix est en contradiction avec la sagesse de ce monde. Tous les sages de ce monde, eh bien, ne découvrent pas Jésus. Et s'ils le découvraient, eh bien, ce ne serait pas la sagesse de Dieu, parce qu'elle est inaccessible à la sagesse humaine. Et donc, elle devient une épée de douleur. Mais avant tout, cette prophétie au sujet de l'épée, donc elle concerne la parole de Dieu que Marie gardait dans son cœur, depuis toujours. Marie de Béthanie aussi, quelqu'un qui buvait les paroles de Jésus. Et elle était témoin de sa résurrection le matin de Pâques. La parole de Dieu restera toujours un objet de contradiction, puisque son message n'est pas accessible à la raison humaine. Si elle était accessible, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire, dit l'apôtre Paul. Dieu l'a voulu ainsi pour que l'accès à Dieu ne se fasse pas par la logique ou par la révélation ou par le cœur, par l'intelligence, mais par la révélation du cœur. C'est dans le cœur que nous cherchons Dieu, que nous le rencontrons. Et Jésus dira à Pierre, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est dans les cieux, qui te les a révélées quand il a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Ne cherchons pas la contradiction, ne soyons pas étonnés si nous la trouvons, nous n'allons pas la chercher, elle se présente toute seule, alors que nous sommes ambassadeurs de son royaume. C'est normal qu'il y ait une contradiction entre le message que nous apportons et la réaction des gens. Rappelons-nous que la parole ne retourne pas à Dieu sans effet. Donc si nous l'annonçons, même si elle est contredite, eh bien nous savons par la puissance de Dieu qu'elle va faire son effet. Les Gédéons le savent, portes ouvertes, qui apportent la parole le sait, hein, dans les endroits fermés, eh bien on sait qu'elle produit du fruit et qu'il y a des résultats. Et nous devons simplement être fidèles à notre mission. Jette le pain à la surface de l'eau et il fera son effet. Croyons que Dieu bénit sa parole et soyons fidèles tout simplement à ses enseignements. J'aimerais qu'on puisse prier un instant avant de clore. Prier pour Pierre-André Chéna, par exemple, qui traverse cette épreuve. Ils sont éprouvés. Ils sont dans un examen, quelque part. Et comme Pierre-André disait, voilà, je me voyais comme un caniche, je vois que Dieu me transforme comme un berger allemand. Eh bien, c'est déjà une restauration dans son ministère, dans son couple. Et donc, c'est réjouissant. De voir que voilà ces épreuves du coronavirus et bien sûr aussi de ce qu'ils vivent, eh bien, fait son effet. Il y a certainement bien d'autres personnes aussi qui sont éprouvées. Claudie m'a envoyé un témoignage assez long cette semaine. Elle en parlera quand elle sera au milieu de nous. Voilà, il y a des choses qui se passent, on ne sait pas tout. Mais les épreuves ne sont pas des choses négatives. Les épreuves sont faites pour montrer si notre foi tient la distance, tient, et que nous acceptons les contradictions, même sans les chercher, si elles existent, parce que Dieu les surmonte par sa grâce. Et nous voulons eh bien prier pour que Dieu nous aide, à ce que eh bien nous soyons des vrais ambassadeurs qui acceptons eh bien d'être confrontés à des situations difficiles. Nous ne les cherchons pas, mais lorsqu'elle se présente, que nous soyons prêts à les surmonter. Prions. Seigneur, nous te remercions parce que ce petit enfant qui a été vu par Siméon, qui va devenir, qui est le Messie et qui va rentrer dans sa mission de salut pour l'humanité, eh bien Seigneur, ce petit enfant sera un signe qui provoquera la contradiction. Seigneur, donne-nous d'accepter cette réalité, de ne pas nous en plaindre, mais de savoir que, Seigneur, si nous sommes contredits, eh bien, que nous puissions garder le calme, que nous puissions garder, Seigneur, simplement, voilà, cette capacité à aimer celui qui contredit, à croire que ta parole va lui parler, que simplement nous puissions ouvrir la bouche avec sagesse pour que, Seigneur, ta parole fasse son effet. Que nous ne le fassions pas, Seigneur, ni par provocation, ni par réaction, mais que nous le fassions par discernement. Comme Jésus savait parler à ceux qui le confrontaient, qui cherchaient à le contredire. Seigneur, donne-nous cette sagesse. Elle est différente à chaque moment, à chaque personne que nous rencontrons, à chaque situation dans laquelle nous sommes. Mais Seigneur, c'est toi qui es le Dieu vivant et vrai. Et nous ne voulons pas développer ni des habitudes, ni des réflexes. Nous voulons développer la communion avec toi pour que par ton esprit, tu nous donnes à chaque fois les mots qui conviennent. Nous te remercions pour Pierre-André, et qui particulièrement a témoigné de ce changement qui s'opère en lui au travers de cette épreuve de foi. Seigneur, merci parce que, Seigneur, tu le formes à exercer un ministère prospère, un ministère qui va, Seigneur, être dans tes mains. Nous te le remettons, nous te remercions pour cette épreuve, mais nous te prions que tu permettes maintenant que Shéna retrouve une bonne santé. Mais Seigneur, que cette épreuve, tous les deux, puisse les former un ministère, Seigneur, auquel ils vont être confrontés par la contradiction ici en France, ici à Elisabethville, Seigneur, mais nous te les remettons afin que tu les bénisses et que tu les renouvelles et que tu les fortifies et que tu les équipes, Seigneur, afin qu'ils puissent être ce signe de contradiction, non pas de manière offensive, mais Seigneur, comme toi tu l'as été, eh bien tu réponds simplement avec amour, mais aussi avec fermeté. Seigneur, toutes ces choses, tous ces attributs ne nous sont pas donnés naturellement, mais tu les apportes, Seigneur, lorsque nous sommes en communion avec toi. Nous te prions pour tous ceux et celles qui ont été soumis à des épreuves durant ces temps de confinement. Nous n'avons pas tous su, mais Seigneur, tu les as préparés pour que, Seigneur, ce que nous allons vivre prochainement, lorsque tout le monde sera revenu, eh bien, que nous puissions être des témoins, sel et lumière dans ce monde, ici, à Aubergenville, à Elisabethville, dans cette grande région de l'île de France, Seigneur, là où tu nous as placés, que nous puissions être témoins de ta résurrection, de ton amour, de ta grâce. Nous te prions, Père, au nom puissant de Jésus. Amen.